premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée au mécénat et à son histoire. Une semaine un peu particulière, puisque demain la Fabrique de l'Histoire n'aura pas lieu pour raison de diffusion, en raison de la diffusion de la messe de la Toussaint. Nous vous retrouverons donc mercredi avec un documentaire d'Amélie Meffre et d'Anne Fleury sur le théâtre de Bussan, un théâtre créé dans les Vosges par l'industriel et mécène Maurice Potcher à la fin du 19e siècle. Jeudi, nous vous parlerons des femmes mécènes au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et aujourd'hui, eh bien, nous aurons donc d'abord en première partie de cette émission le plaisir de nous demander qui était justement mécène. Proche, très proche même de l'empereur Auguste, dont le nom propre est devenu un nom commun, avec Clément Chillet, maître de conférence à l'université de Grenoble, dont la thèse sur ce personnage, qui va être publiée avant Noël à l'école française de Rome, fait autorité. Et puis nous aurons avec nous Anne Baldassari, conservateur général du patrimoine, commissaire de la très grande exposition Tchoukine, qui vient d'ouvrir à la fondation Vuitton à Paris. Elle nous dira comment cet industriel russe est devenu, au tout début du XXe siècle, non seulement un des collectionneurs de l'art de son temps les plus avertis, mais peut-être également un peu un mécène, celui peut-être d'Henri Matisse. On en discutera avec elle, mais tout de suite, il est temps de retrouver le 49e épisode de notre feuilleton du lundi, La Fabrique de la Guerre froide, concoctée par Anaïs Quin et Françoise Camard.
Viešme dál socializmus a demokracii.
Vážení priatelia, napriek streľbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prešli...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27e sieste KPSS.
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Taiji.
In the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere.
And under the authority of Trump.
Dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Rozmawialiśmy, tak jak Polacy.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Attention, attention. Ici Radio Kossuth Budapest. Monsieur Imre Nagy, président du Conseil de la République populaire hongroise, a fait ce matin l'appel suivant à la radio. Aujourd'hui, à l'aube, les troupes soviétiques ont commencé une attaque contre la capitale hongroise dans l'intention évidente d'abattre le gouvernement hongrois légal et démocratique. Nos troupes sont en combat. Le gouvernement est à sa place. J'annonce cela au peuple hongrois et au monde entier.
La crise de Budapest de 1956 incarne l'un des épisodes les plus violents de la répression soviétique dans ces républiques satellites. On compte 2500 morts, 20 000 blessés et 26 000 personnes arrêtées parmi les insurgés qui se soulèvent pour la démocratisation de la société hongroise. Malgré la mort de Staline, l'Union soviétique garde une emprise étroite sur les républiques sœurs. Jean-Yves Potel.
On vient d'entendre la radio de Budapest, qui est une version en français. Mais c'est surtout le discours qu'a fait Imre Nagy, c'est-à-dire Imre Nagy, enfin ça dépend comment on le prononce, qui était effectivement le chef du gouvernement hongrois et qui appelle à la résistance. On est exactement le 4 novembre à 5 heures du matin. À 3 heures, les soviétiques sont rentrés dans Budapest. Et à 6 heures, un peu plus tard, on va avoir une partie de la direction hongroise, derrière János Kádár, qui est passé du côté des soviétiques, qui va appeler à faire un nouveau gouvernement et à faire un autre gouvernement contre celui de Nagy. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, on est dans une situation où, depuis une dizaine de jours, on a une situation insurrectionnelle dans le pays qui a commencé le 23 octobre. Le 23 octobre, il y a eu une manifestation d'étudiants qui était en partie une manifestation en solidarité avec les Polonais, qui étaient eux-mêmes en révolution. On est en 56, octobre 56, les étudiants et la foule de Budapest, tout le monde s'est rassemblé devant la radio et des membres de l'AVU, qui était la police politique, ont tiré sur la foule. Et il y a eu des morts et à ce moment-là, la colère a commencé à naître. On a détruit une statue de Staline, on a commencé à s'en prendre au pouvoir de façon directe, et à ce moment-là, a commencé une nuit entière d'émeutes, avec les armes qui vont être distribuées. On ne sait pas trop d'où viennent ces armes. Et ce qui est très important, c'est qu'au milieu de cette nuit d'émeutes, eh bien, le chef du parti de l'époque, qui s'appelle Guéraud, va appeler les soviétiques, et il va y avoir une intervention soviétique à ce moment-là. Et les troupes russes vont rentrer dans Budapest. Et il va y avoir des bagarres, ça va durer pendant 2-3 jours, et au bout de 2 jours, le gouvernement va démissionner, Guéraud va disparaître, et va apparaître à ce moment-là Imre Nagy, qui va être nommé chef du gouvernement et qui va former un nouveau gouvernement. Qui est cet Imre Nagy? C'est un dirigeant réformateur du Parti communiste, qui avait déjà été au gouvernement juste après la mort de Staline, qui a eu un gouvernement qui a duré à peu près un an, qui avait fait des réformes qui avaient été bloquées en fait par l'appareil stalinien. Donc la formation du gouvernement de Nagy en octobre 1956, suivie d'un changement aussi de la direction du Parti communiste, qui se réforme et auquel on met aussi un réformateur qui s'appelle Janusz Kadar, qui avait d'ailleurs été lui-même en prison avant, qui avait été libéré de prison grâce à l'action de Nagy. On le met secrétaire général du Parti communiste. Et donc vous avez ce couple avec d'autres qui vont être à la tête de l'État et du gouvernement. Mais très vite, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a une forte radicalisation de la population, manifestation, les conflits s'arrêtent, mais on fait des réformes, on demande le pluripartisme, on libère les prisonniers politiques, on libère le primat de l'Église catholique hongroise, on donne la possibilité aux partis agrariens de se reconstituer. Les intellectuels sont organisés dans des cercles qu'on appelle les cercles pétophi, où ils parlent, ils publient une presse. Vous avez des conseils révolutionnaires qui sont mis dans toute la Hongrie, voire des conseils ouvriers dans les usines. En quelques jours, c'est une vraie révolution qui se met en place, avec une mobilisation considérable de toute la population. Et ça inquiète complètement les soviétiques qui étaient sur place, qui regardaient de près. En plus, il y avait une conjoncture internationale qui a joué malheureusement en défaveur des Hongrois. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux éléments importants. D'une part, l'Occident n'a rien fait, n'a rien bougé. Il y a eu des protestations, bien sûr, il y a eu quelques manifestations ici ou là. Mais les Américains ont expressément fait savoir diplomatiquement aux Soviétiques qu'ils ne feront rien. Il faut dire qu'on est dans le contexte de la crise de Suez, qui n'est pas très loin. Et ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, dans le monde communiste, alors qu'on commençait à avoir des différenciations, on se rappelle qu'en 1948, Tito est sorti. Que ça commençait à chauffer entre les Chinois et les Soviétiques, qui aboutira à la rupture des années 60. Eh bien, dans le monde soviétique, les Chinois et les Yougoslaves ont fait savoir clairement à Khrouchtchev, qui a fait une tournée, qui soutenait la répression. Même l'idée qu'il y ait que Kadar, qui était un des dirigeants, va être rattrapé et qu'on va l'emmener à Moscou, on va lui expliquer ce qu'il faut faire et on va le mettre à la tête d'un pseudo-gouvernement qui remplacera celui de Nagy après la répression. Cette idée-là, elle vient de qui ? Hein, elle vient pas du Kremlin, elle vient pas de Budapest, elle vient de Tito, qui l'a suggéré à Khrouchtchev, qui avait une autre idée. Non, prenez celui-là, il va être très bien. Imre Nagy, il a été arrêté, et ensuite il y a eu le procès, et en 1958, si je me souviens bien, Nagy a été non seulement condamné à mort, mais exécuté. Et Kadar a réussi une sorte d'exploit, c'est que, alors que lui, qui est celui qui a le plus de sang sur les mains, parce que c'est lui qui a décidé, non seulement il a appelé les soviétiques, mais c'est lui qui a personnellement décidé l'exécution de Nagy. Mais cet homme qui a fait ça, qui est donc qui a les mains les plus sales de tous les dirigeants, il a quand même réussi à sortir de cette histoire comme étant le plus libéral. Si vous écoutez les commentaires des années 88, 89, 90 sur le changement ou quand il est encore au pouvoir, il s'en va à ce moment-là, on dit « Ah bah Kadar, c'était le temps ouvert, il a fait des réformes, etc. »
Voilà donc pour ce 49e épisode du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, concocté par Anaïs Quin et Françoise Camard, avec Jean-Yves Potel qui nous racontait la répression de Budapest il y a très exactement 60 ans, puisque c'était en 1956. Absolument. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous avons plongé donc en 56 avant notre ère, en l'occurrence, ou un peu plus tard, mais en tout cas à la période romaine, avec notre premier invité de l'émission de ce jour, Clément Chiller. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Grenoble, que nous remercions de vous accueillir. Vous êtes auteur d'une thèse que vous avez soutenue en 2012 et qui va être publiée très bientôt, dans quelques semaines, à l'École française de Rome, une thèse sur un personnage que l'on croit connaître, en tout cas on en connaît le nom, il s'appelle Mécène, mais que vous redécouvrez en particulier dans son rôle auprès d'Auguste, et pas simplement en tant que mécène des arts à l'époque augustéenne, comme on l'a souvent présenté, mais vous tentez d'en faire véritablement l'histoire dans tous les aspects de sa personnalité, Clément Chillet.
Absolument. Mécène est une personnalité beaucoup plus complexe que ce que son nom, qui est devenu un nom commun aujourd'hui en français et dans la plus grande partie des langues européennes, le laisse penser. Mécène, c'est un personnage qui a eu un rôle politique en particulier extrêmement important dans la fondation de l'Empire, puisque aux côtés de celui qui n'est pas encore l'empereur Auguste, il a un rôle à la fois en policier, diplomatique, fiscal. C'est lui qui est un des bras droits d'Auguste, pas le bras droit militaire qui est Agrippa et qu'on connaît beaucoup plus que Mécène, mais c'est malgré tout un personnage extrêmement important dans la création du régime impérial qui aura la postérité qu'on lui connaît.
Anaïs Klein.
Donc c'est d'abord un homme politique, ce Mécène. Parce qu'on sait finalement très peu de choses sur lui. Vous dites dans vos écrits que la documentation, les textes qu'on a de lui-même ou sur lui-même, sont très très peu nombreux.
Les textes sur Mécène sont effectivement très peu nombreux pour une raison assez simple quand on connaît la manière dont sont rédigées les sources anciennes, c'est que Mécène n'a jamais eu de carrière politique au sens romain du terme. C'est-à-dire qu'il n'a jamais choisi d'être élu aux divers postes qui constituent les magistratures romaines. Il a toujours eu ce que nous on appellerait aujourd'hui un rôle de l'ombre, un rôle de conseiller de l'ombre. À Rome, ça se traduit par un statut particulier, il est resté chevalier, il n'est jamais devenu sénateur. Comment il a pu malgré tout avoir ce rôle politique si important? Eh bien, c'est parce qu'on est dans une période de guerre civile et que à ce moment-là, celui qui deviendra Auguste prend, comme ses camarades politiques, un certain nombre de libertés avec le fonctionnement des institutions romaines. C'est ce qui explique pourquoi Mécène, au moment où l'Empire est fondé, l'Empire qui se prétend être une restauration de la République, pourquoi Mécène, à ce moment-là, n'a plus de place sur le devant de la scène et pourquoi il disparaît, en particulier, pourquoi il disparaît de nos sources.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, vous racontez dans votre travail de thèse, Clément Chillet, comment, en fait, la période, disons, visible de l'œuvre de Mécène en tant que politique, c'est la période d'avant l'accession d'Auguste à la magistrature suprême, donc et à son poste qui va devenir celui d'empereur. C'est cette période-là où on le voit, mais dès que effectivement Auguste prend le pas sur ses comparses du triumvirat, expliquez-vous, eh bien, évidemment, à partir de ce moment-là, Mécène rentre dans l'ombre et deviendra, alors là, peut-être de façon peut-être plus marquée, celui que l'on connaît sous le nom commun de Mécène, c'est-à-dire celui qui va accompagner la propagande impériale par le mécénat qu'il exercera auprès, en particulier, des grands poètes de cette époque.
Alors, oui et non. D'une part, parce que son action de protection des poètes a commencé déjà avant, déjà pendant sa période d'action politique, pendant la période troublée du triumvirat, puisque Horace, par exemple, entre dans ce qu'on a l'habitude d'appeler le cercle de Mécène en 39 avant notre ère, soit plus de 10 ans avant la fondation officielle de l'Empire. Et de même, pour le rôle politique ne s'arrête pas complètement au moment où Auguste prend le pouvoir, puisque Mécène reste un conseiller de l'ombre extrêmement influent. Il est moins visible pour nous dans les sources, mais il est extrêmement influent. C'est par exemple lui qui, vraisemblablement, rend le régime impérial un régime dynastique, c'est-à-dire un régime où le pouvoir se transmet à l'intérieur de la famille, puisque c'est lui qui conseille Auguste sur l'époux à donner à la fille unique d'Auguste, donc celle qui assure la transmission en quelque sorte familiale du pouvoir.
Anaïs Klein.
Oui, mais même si Mécène entre quelque peu dans l'ombre, il reste malgré tout un grand personnage public et comme le disait Emmanuel Laurentin, il va servir la stratégie politique d'Auguste, notamment en faisant la promotion d'un discours sur sa propre généalogie, sur la généalogie de Mécène, qui sert à rassembler autour du pouvoir d'Auguste toutes les tribus italiennes. Clément Chilly.
Oui. Absolument. Mécène a beaucoup insisté sur son ascendance étrusque. Alors, c'est une ascendance qui vraisemblablement... fantaisiste, voilà, exactement. Qui a été très largement recomposée pour les besoins de la cause. Alors... il y a certainement des raisons personnelles. Mécène était sans doute très fier de son ascendance aristocratique étrusque, mais ça ne suffit pas à expliquer l'importance qu'il donne à ce thème. L'importance du thème étrusque est avant tout politique, puisque Auguste, quand Auguste a pris le pouvoir, est entré dans la vie politique à la mort de César, il ne pouvait pas s'appuyer sur la noblesse romaine et sur... le monde politique romain qui venait de se débarrasser de César, mais il a dû s'appuyer sur les Italiens. Et l'importance de l'Étrurie se voit, puisque c'est ce dont on parle dans cette émission, aussi dans la poésie des poètes qu'il a protégés, en particulier Virgile. Il y a une chose très intéressante dans l'œuvre majeure de Virgile qu'est l'Énéide, c'est que les Étrusques, qui habituellement... dans la série des légendes que Virgile n'invente pas, évidemment, hein, qu'il reprend mais qu'il retravaille, les Étrusques sont des ennemis d'Énée, qui arrive en Italie, Énée qui donnera, à la suite d'une généalogie qui aboutit à Romulus et Rémus à la fondation de Rome, ces Étrusques sont des ennemis. Eh bien, chez Virgile, les Étrusques deviennent des alliés d'Énée, ce qui montre vraiment une récupération, une utilisation de ce passé italique, de ce passé des différents peuples italiens dans la construction du régime impérial par Auguste.
Ce qui est très intéressant en vous lisant, Clément Chilly, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce mécène est bien plus complexe que l'image qu'on a voulu en conserver plus tard, qu'il est une personnalité double, triple, vous dites qu'il surimpose des identités multiples sans les opposer vraiment, et que au bout du compte, ce personnage, par exemple, n'est pas de ceux qui vont tenter une course aux honneurs qui pourtant est assez fréquente à cette époque-là à Rome. Non, il considère que son ascendance, justement supposée royale du côté des Étrusques, son ascendance lui suffit pour être ce qu'il est dans la société romaine de l'époque.
Oui, c'est une personnalité assez étrange par rapport au canon de la réussite sociale, disons, de cette époque-là, qui reste très largement pour l'élite romaine cantonnée dans le schéma sénatorial, c'est-à-dire entrer en politique en se faisant élire pour pouvoir ensuite entrer dans le Sénat. Mécène reste chevalier, Mécène accepte ce rôle de l'ombre à la restauration de la République et à la fondation de l'Empire, alors qu'il aurait très bien pu, vu sa position auprès d'Auguste, entrer en politique sans aucun problème. Ça fait partie de cette personnalité un peu étrange. Alors, il n'est pas le seul à son époque, mais qui préfère la retraite, une retraite proche du pouvoir malgré tout, mais une retraite qui n'est pas exposée aux aléas de la vie politique canonique de la Rome de cette époque.
Anaïs Quien.
Si Mécène prend cette forme de retraite pour... par ailleurs, il est malgré tout représenté dans les œuvres de ses protégés, représenté de manière très diverse. C'est ce que vous analysez dans un de vos articles, Clément Chilly. On voit bien que les poètes protégés par Mécène choisissent de le représenter de manière différente et parfois pas.
Oui, alors c'est une chose qui est assez étrange, c'est que par exemple chez Virgile, qui est le premier des poètes de l'entourage de Mécène dont nous ayons gardé les œuvres, Mécène est en réalité présent uniquement par des apostrophes, donc Virgile s'adresse à Mécène. En revanche, il est beaucoup plus caractérisé chez Horace et chez Properce, qui sont les deux autres grands poètes dont on est aujourd'hui encore les œuvres, et c'est là qu'intervient cette caractérisation étrusque et royale, ce qui nous fait penser donc que ces deux éléments font partie du discours que Mécène tenait sur lui-même, de la personnalité sociale qu'il s'était construite et qui était visible donc de tous à cette époque.
Alors, tout de même, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, pour exercer ce mécénat, il faut du pouvoir, il faut également de l'argent, il faut aussi un lieu, et vous vous attardez dans votre travail de thèse, sur les fameux jardins de Mécène qui se trouvent sur l'Esquilin, et qui montrent, là encore, que Mécène veut brouiller les pistes, d'une certaine façon. Vous expliquez que c'est, il introduit les jardins dans la ville, en l'occurrence, et qu'il brouille donc les localisations des types d'habitats aristocratiques de la Rome de cette période, donc au tournant de notre ère, puisqu'il y avait auparavant les domus intramuros, les orties extramuros et les villae, et que lui, en installant sur une ancienne zone de cimetière ses jardins, en l'occurrence ses jardins de l'Esquilin, eh bien, il est à la fois des deux côtés des remparts, il participe à la destruction des remparts, à la reconfiguration de la Rome augustéenne, et que ça, c'est important pour pouvoir justement montrer son importance aussi dans la hiérarchie autour d'Auguste.
Absolument. Le rôle urbanistique de Mécène à Rome est très important. Encore une fois, il souffre du silence des sources sur son action, à l'inverse d'Agrippa, en revanche, dont les travaux sur le champ de Mars sont très bien connus. Mais l'implantation de Mécène sur l'Esquilin n'est pas moins importante. Alors, j'en tiens pour preuve que les jardins de Mécène, à la mort de Mécène, sont légués à Auguste, entrent dans le patrimoine impérial, et que la fameuse maison dorée de Néron prendra appui sur deux pôles à Rome, le Palatin qui est le palais impérial et les jardins de Mécène qui sont donc cet espace, un autre espace de représentation du pouvoir, un espace dans lequel on a certainement plus de liberté. On est, vous l'avez dit, pas dans le cadre de la domus aristocratique qui comporte un certain nombre de connotations politiques extrêmement importantes, et cette ouverture de la ville du côté de l'Esquilin est un vrai paradoxe avec l'ouverture à l'époque augustéenne aussi du côté du champ de Mars. Par ailleurs, ces jardins donnent à Mécène un espace pour réunir ses poètes, et on sait que les trois dont on est gardé les œuvres, Virgile, Horace et Properce, habitaient dans les jardins ou autour des jardins, autour de la propriété de Mécène donc.
Anaïs Quien.
Oui, on a évoqué la complexité de ce personnage. Emmanuel Laurentin parlait de brouillage de pistes tout à l'heure. Est-ce véritablement cela, ou tout simplement Mécène ne jouit-il pas d'une très grande liberté du fait de son absence d'élection, de son absence de charge publique officielle, tout en bénéficiant de sa proximité avec le pouvoir, et de ce coup et tout cela ne lui permet-il pas de jouir d'une liberté relativement inédite à l'ensemble de la société à ce moment-là?
Si, absolument. Le fait de ne pas entrer dans la carrière politique le décharge d'un certain nombre d'obligations, disons pour aller vite, morales, qui sont normalement attachées à la définition de cet ordre particulier de la société romaine qu'est l'ordre sénatorial, dans lequel on entre quand on a été élu magistrat et donc qu'on entre au Sénat. La position de chevalier, donc, même si elle partage un certain nombre de ses critères moraux, a libéré Mécène de ses obligations. Donc, en revanche, ce qu'il faut pas négliger, c'est la partie de personnalité propre du personnage, qui était certainement originale, qui a joué de cette originalité, en particulier en la rattachant très certainement, à mon avis, à la sphère étrusque. Voilà, c'est un personnage. Il est considéré comme tel, en particulier par le philosophe Sénèque, qui l'agace beaucoup. Sénèque n'aime pas beaucoup Mécène, n'aime pas beaucoup son comportement.
Il le juge très sévèrement.
Public. Il le juge extrêmement sévèrement. Alors, pour plusieurs raisons, des raisons philosophiques, qui n'appartiennent pas à la même école. Mécène est certainement épicurien, alors que Sénèque, pardon, appartient à l'école stoïcienne, pour des raisons personnelles aussi, sans doute, puisque Mécène a réussi à faire ce que Sénèque n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à s'éloigner du pouvoir, à n'être plus sur le devant de la scène, mais à malgré tout garder l'oreille de l'empereur. Sénèque n'y arrive pas, et ça se termine très mal, puisqu'il est contraint au suicide par Néron. Et puis, il y a aussi certainement cette personnalité un peu étrange, à la limite de la romanité, en tout cas à la limite des codes sociaux qui font qu'un personnage, par son habit, par son comportement, peut être considéré comme un romain de l'élite politique.
Et c'est d'ailleurs intéressant parce que vous nous dressez le portrait d'un mécène qui serait une sorte de hors-saint, qui viendrait d'ailleurs et qui rentrerait par fracas dans la société romaine, tout en acceptant certains des codes de cette société romaine. Mais par exemple, vous dites qu'il est donc il a des schémas, il est un peu hors des schémas mentaux de l'époque, mais qu'il a assume la richesse, la pompe, le luxe, la prodigalité, ce qui pouvait choquer par exemple certains des Romains de l'époque.
Oui, c'est en cela que Mécène superpose un certain nombre de ce que j'appelle des identités, enfin en tout cas superpose des signaux qui sont envoyés à la société pour définir cet individu. Alors Mécène est, entendons-nous bien, parfaitement romain. Sa famille est parfaitement romaine. Sa famille a été intégrée très profondément dans les cercles politiques de Rome, puisque son grand-père, très certainement, a joué un rôle extrêmement important juste avant le déclenchement de la guerre sociale à Rome, dans les années 90 avant notre ère. Donc c'est un romain. Il n'arrive pas de son Étrurie natale comme un nouveau venu dans la ville. Non, c'est un personnage, c'est une famille qui est ancrée dans le paysage politique, social, culturel de Rome. Mais malgré tout, son attachement, pour les raisons éventuellement politiques qu'on a vues tout à l'heure, le conduit à adopter ce comportement un peu particulier que nous retransmettent les sources.
Anaïs Kien.
Oui, un des grands thèmes lorsqu'on parle d'histoire du mécénat repose sur la relation entre les artistes, les protégés du mécène et le mécène lui-même. Arrive-t-on à toucher du doigt la nature de la relation de mécène avec ses protégés, avec Horace, par exemple, ou avec Virgile, Clément Chillet?
Alors, c'est assez compliqué parce que la description que font les poètes dans leurs œuvres, qui est la seule chose en réalité qu'on ait pour pouvoir juger, est maquillée par un certain nombre de filtres. On est dans de la poésie a ses codes particuliers qui ne sont pas les codes de l'histoire, par exemple, et donc c'est à travers ces filtres qu'il nous faut voir, qu'il nous faut essayer de retrouver relation qui pouvait unir les poètes à leurs protecteurs. Alors, il y a une chose, une idée dont il faut se débarrasser très certainement en ce qui concerne au moins les trois poètes dont on a gardé les œuvres, donc je rappelle Virgile, Horace et Properce, c'est l'idée d'une poésie sur commande, d'une poésie de propagande, disons, qui serait imposée par Mécène et au-delà de lui par Auguste pour fournir une sorte de poésie nationale qui serait là pour soutenir le régime augustéen. C'est pas du tout le cas. Les poètes avaient très certainement une assez grande liberté dans leurs œuvres. La preuve, c'est que visiblement Mécène a dû de temps en temps suggérer à Properce et à Horace d'écrire une épopée, ce que l'un et l'autre ont refusé. Et ils le disent. En revanche, là où le lien entre politique et culture est visible dans les œuvres, c'est que tous les individus qui sont dans l'entourage de Mécène partageaient très certainement des idéaux politiques en particulier, une image de Rome. C'était une sorte de communauté de pensée plus que de cercle de propagande.
Vous dites que ce sont trois sensibilités différentes qui aspiraient à la paix, Virgile, Horace et Properce, et qui trouvèrent auprès de Mécène de quoi satisfaire leur attente.
Oui, alors il faut se replacer dans le contexte. Ces quatre personnages, Mécène est sans doute un peu plus âgé qu'eux, mais à peine, sont des personnes qui ont connu jusqu'à leur âge adulte que des guerres civiles à Rome. Des guerres civiles extrêmement violentes qui n'ont pas toutes pour théâtre l'Italie, mais l'Italie est mise à contribution par les levées de soldats perpétuels, par les impôts qui pèsent sur les Italiens. Et donc, la paix est pour eux, la restauration de la paix, et c'est sans doute ce qui explique au moins en partie leur adhésion au régime augustéen, la paix est un idéal social qui, évidemment, est extrêmement important. Et ça, on peut le voir en faisant la différence, par exemple, avec un autre poète qui, lui, date de la pleine période augustéenne, qui est Ovid. Ovid, lui, naît à la fondation du Triumvirat. C'est-à-dire que les guerres civiles s'arrêtent au moment où il a une dizaine d'années, disons. Et Ovid, lui, a connu la paix. A connu la paix romaine, la paix augustéenne. Et évidemment, sa vision des choses est complètement différente.
Merci Clément Chillet de nous avoir montré combien la personnalité de Mécène, qui a laissé donc son nom son nom commun, donc désormais à tous ceux qui parrainent les arts en particulier, était plus complexe que ce qu'on croyait. Vous avez donc rédigé une thèse, soutenu une thèse en 2012, qui va être publiée dans quelques semaines aux presses de l'École française de Rome. Merci encore à nos confrères de Grenoble qui vous accueillaient dans leur studio. Nous passons à la deuxième partie de cette émission avec notre invitée Anne Baldassari. Du Petrushka de Stravinsky, création de 1911 pour les ballets russes, le premier tableau, la fête populaire de la semaine grasse, sous une direction de Pierre Boulez. Bonjour Anne Baldassari, nous sommes dans une émission de La Fabrique de l'Histoire qui ouvre une série un peu particulière autour de la question du mécénat. Nous avons entendu parler d'un mécène antique, celui donc qui était auprès d'Auguste comme homme politique, mais également comme protecteur des artistes. Et vous êtes donc la commissaire générale d'une formidable exposition qui vient d'ouvrir à Paris, à la Fondation Vuitton, autour d'un autre mécène, Tchoukine. Alors, est-ce qu'il était mécène ou est-ce qu'il était juste collectionneur, ce Tchoukine, que vous allez nous présenter ensuite?
Alors, Sergueï Tchoukine est à la fois, d'abord, un grand collectionneur qui va apprendre à collectionner, parce que collectionner, c'est un art qui vaut parfois celui de l'art des peintres et des sculpteurs. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à approcher dans la complexité de son histoire individuelle, grand marchand, appartenant à une famille de tradition, des vieux croyants. C'est un élément... J'écoutais Clément Chier parler justement de cette étrurie imaginaire. On a là quelque chose qui est du même ordre, mais qui était absolument établi historiquement.
Et il faut dire ce que sont les vieux croyants dans cette rue aussi d'avant la révolution soviétique.
Oui, alors les vieux croyants étaient depuis la fin du XVIIe siècle restés attachés à l'orthodoxie chrétienne d'avant le schisme, d'avant la réforme menée par le patriarche Nikon, je pense, mais vous en savez sans doute plus que moi sur cette question, et où la réforme est fondée notamment sur une révision du statut de l'image, de l'icône, qui dans la tradition de l'icône byzantine était une image sacrée, révélée. Elle n'est pas faite de main d'homme. Et les artistes, justement, sont limités à cette posture de répétition éternelle et fidèle, avec, oui, un luxe de petits détails leur permettant parfois de signer et de marquer stylistiquement leur œuvre. Mais on est dans cette espèce de décalage et ce statut de l'image sacrée, les vieux croyants, ils restent très attachés. Donc ils vont souffrir pendant plusieurs siècles de poursuites. Certains sont, enfin, ils sont vraiment poursuivis par la société et il faudra attendre 1905 et la loi qui est promulguée par le tsar à cette époque encore pour leur donner un statut social.
Et c'est important donc de se dire que Chtchoukine est justement issu d'une famille de vieux croyants.
Tout à fait, parce que le rapport qu'il a à l'image, à l'œuvre, reste dans cette acception qui est celle du sacré de l'œuvre. Et ce rapport, on peut le sentir dans l'exposition où une émotion étreint parfois le public et où les œuvres, notamment l'ensemble d'œuvres réunies autour de Gauguin, de la période thaïsienne de Gauguin, est très fortement marquée par des grands thèmes chrétiens.
Anaïs Kien.
Il y a une dimension extrêmement intéressante et généreuse aussi dans l'action de Chtchoukine, c'est qu'il ouvre ses collections au public de manière très très précoce dès 1908. Sa galerie est ouverte aux amateurs qui veulent venir voir toutes ces pièces qu'il achète progressivement.
Tout à fait, c'est en ce sens-là que Chtchoukine devient un mécène. Après avoir été collectionneur, il va se rendre compte que cet art, d'abord, c'est un art toxique, qui est très très mal perçu en Russie, comme d'ailleurs en France, il doit le partager.
Oui, parce qu'il collectionne, on n'a pas encore dit les noms de ceux qu'il collectionne. Monet d'abord, puis
les post-impressionnistes, Cézanne et Gauguin, puis Matisse et Picasso, les Fauves et les Cubistes, donc c'est extrêmement mal perçu et considéré comme absolument inacceptable par tous. À Paris, on vient se moquer au Salon des Indépendants, au Salon d'automne. On vient rire de ces artistes et on le fait aussi à Moscou. Il y a certaines œuvres qui sont dégradées dans la collection Chtchoukine. Et donc, c'est important de mesurer l'ampleur négative de cette collection à l'époque. Donc, Chtchoukine, en la partageant, va chercher des alliés et il va trouver, notamment, et c'est là où son rôle de mécène est important, puisqu'il va bâtir un musée. Et c'est ce projet de musée In Progress qui va se développer entre 1908 et 1914, donc au moment de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, qui va faire son assise mécénale. C'est là qu'il va devenir le mécène que nous connaissons aujourd'hui. Et ses alliés, il va les trouver chez les jeunes peintres russes, qui sont encore certains étudiants, et qui vont être les meilleurs supporters de Chtchoukine et créer cette pression, cette demande, qui vont avoir faim de cet art en train de se faire à Paris.
Ce qui est très intéressant, c'est que dans le travail que vous avez donc résumé avec d'autres, dans le catalogue qui est produit à l'occasion de cette exposition à la Fondation Vuitton, vous nous expliquez qu'il y a une tradition qui remonte un peu plus loin que Chtchoukine soi-même, de ces collectionneurs moscovites, en particulier des collectionneurs moscovites d'art français, qui remontent à la deuxième moitié du 19e siècle au moins, qu'il y a un frère aussi qui se suicidera, mais qui a aussi été une sorte de parrain pour Sergueï Chtchoukine dans la connaissance de ces artistes français qui arrivent avant lui, qui s'installent avant lui à Paris et qui lui fera connaître ces milieux de marchands et de peintres au tournant du 19e et du 20e siècle, et que tout cela concourt justement à la création d'une personnalité hors norme qui est celle de Sergueï Chtchoukine.
Tout à fait, Sergueï Chtchoukine nous intéresse aujourd'hui et c'est sa personnalité singulière qui sert de fil narratif à cette exposition, mais il est emblématique d'un réseau social, d'une construction sociale délibérée. Je parlais des vieux croyants, il faut avoir conscience que tous les grands mécènes russes de la fin du 19e appartiennent aux vieux croyants. Et c'est collectivement qu'ils vont élaborer cette nouvelle identité sociale. J'ai écouté ce qui était dit sur Mécène à l'instant. C'est très important de voir que l'opéra, le ballet, le théâtre, les collections de musées, les musées sont les objets que ces philanthropes qui sont en train de s'inventer vont se donner, vont créer pour que Moscou se mette à exister. La Moscou industrieuse, la Moscou sortie de la russité, de cette genèse de la russité, et qui vient s'opposer à la grande Saint-Pétersbourg aristocratique et tsariste.
Anaïs Kien.
Et d'ailleurs, il y a une rupture très, très sèche dans, dans l'entretien de ses réseaux sociaux par Tchoukine, qui est sa fuite. Alors, un parcours un petit peu compliqué, mais qui l'amène à finir sa vie en France dans les années 30. En 1918, il doit fuir la Russie suite à la Révolution. Et là, il cesse totalement d'entretenir ses réseaux, c'est-à-dire qu'il fait silence.
Oui, alors c'est en fait plus complexe parce que on est un peu dans la mythologie autour du Tchoukine. On manque cruellement d'archives.
C'est comme pour Mécène.
Il fait silence ou on ne sait pas.
Et c'est pire. C'est pire que pour Mécène d'une certaine manière parce que on a réuni, et j'espère de manière assez substantielle, des éléments pour ce catalogue qui se veut scientifique mais qui est une première pierre. J'espère qu'à la suite de cette exposition, nos amis et collègues russes vont se mettre au travail et exhumer les archives qui ont disparu en 1918. Mais on a déjà réuni un certain nombre de choses. Ce qui apparaît, c'est que Tchoukine, d'abord, appartient à une fratrie, tous collectionneurs, vous avez raison, et il y avait non seulement Ivan, installé à Paris, mais Dimitri, mais Piotr, qui ont tous été des grands collectionneurs. Et donc, et chacun avait choisi un terrain d'élection, de collection, qui pour marquer sa différence au sein de l'univers familial. En 1914, Tchoukine a déjà décidé de quitter la Russie. Et avant l'éclatement de la guerre, en fait, sa femme, ses enfants se sont suicidés, sa femme est morte, et après une période de rédemption, de culpabilité aiguë, on publie des extraits de son journal dans le catalogue. La collection va lui servir d'un espace pour récupérer à la fois socialement et psychologiquement, c'est certain. Mais justement, il tombe amoureux en 1913. Il a une nouvelle compagne, il va l'épouser. Pendant tout un temps, il joue à cache-cache dans les palais moscovites et il va quitter officiellement le palais Trubetskoy en 1914, avec sa nouvelle épouse, et il veut partir vivre en Suisse. Il a fait son temps, il a une soixantaine d'années. À cette époque-là, c'est tard dans la vie. Il a fait son œuvre.
Et laisser sa collection là où
elle est. Il a fait sa collection. Elle est donnée depuis 1907 à la ville de Moscou. C'est une collection municipale. Et elle est dédiée à... Elle doit rejoindre, parce qu'à l'époque, le musée Pouchkine n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui, elle doit rejoindre la collection Tretiakov, autre grande collection dans laquelle le département d'art français est très important. Donc en fait, il a fait son œuvre, il vend toutes ses entreprises, tous ses biens, tous ses avoirs sont en Suède, avec une frontière physique avec la Russie importante. Donc tout est prêt pour s'en aller. Et ce n'est pas de la préscience, c'est simplement que Tchoukine a fait son œuvre. C'est son projet.
Ce qui est intéressant, et sans vouloir faire le parallèle avec de grands entrepreneurs français d'aujourd'hui, dont un est justement celui qui a fondé la Fondation Vuitton, c'est qu'il y a aussi dans les façons dont on collectionne, et c'est ce que vous racontez aussi, une nécessité de se... confronté à d'autres et une rivalité. Et si on cite Tchoukine, il faut citer Morozov.
Oui.
Comme si on cite Bernard Arnault, il faut citer François Pinault, par exemple. Il y a effectivement cette idée qu'on collectionne parce que d'autres collectionnent aussi, oui. Et qu'on veut avoir les meilleurs ou les plus beaux tableaux qui vous touchent le plus dans sa propre collection, Anne Baldassari.
Alors justement, avec Morozov, c'est que c'est un cas très particulier. Ivan Morozov, son frère Michel, sont des amis de Tchoukine. Et en fait, ils conçoivent tous leur collection symétriquement par rapport à une donation commune à la ville de Moscou. Ils veulent bâtir Moscou. Ils ont bâti Moscou. Le Moscou actuel a été inventé par ces grands marchands.
Parce qu'il faut toujours se mettre dans l'idée que Saint-Pétersbourg est le siège du pouvoir, théoriquement,
oui.
Et que Moscou est la ville industrieuse, la ville qui construit la Russie moderne.
Tout à fait, et qui n'est pas reconnue. Tous vieux croyants, d'ailleurs, les Morozov le sont également. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette amitié va prendre différentes formes, notamment, ils vont acheter des œuvres quasiment en commun. Ils vont se repasser des tableaux. Et par exemple, on a deux versions du Nu noir et or de Matisse dans la collection Tchoukine, dans la collection Morozov.
Chacun a le sien.
Mais en même temps, il est choisi différent. Ils construisent des séquences significatives, représentatives. On a deux variantes de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne et deux fumeurs de Cézanne. Donc, on est dans une logique qui est justement transversale, ce qui n'est absolument pas le cas pour les grands collectionneurs que vous citiez tout à l'heure. On est vraiment dans une logique, cette fois-ci, non pas de rivalité, mais de construction commune. Là où on a rivalité et compétition, c'est avec les Stein.
Stein qui sont installés à Paris, voilà. et qui servent un peu de modèle aussi, enfin de modèle ou de,
de regard à
Tchoukine dans sa conception de la collection.
Tout à fait. Tchoukine va découvrir, va être formé par les grands marchands parisiens, mais il va surtout entrer dans une compétition assez radicale avec Léo Stein. Léo avait fait Harvard, il était extrêmement éduqué, il était critique d'art, il voulait être peintre. Ils ont immigré dans les années 1902-3 à Paris, grande fortune de la région de San Francisco. Et lui, comme Gertrude Stein, sa sœur, qui est un grand auteur et qui va occuper une place tout à fait importante à l'époque, son frère Michael Stein, qui va gérer les avoirs familiaux, son épouse. Donc ce groupe de grands mécènes américains, riche mais beaucoup moins riche que Tchoukine quand même, va créer ce marché de l'art moderne, vont soutenir Matisse et Picasso, Picasso et Matisse plutôt dans l'ordre chronologique. Et en fait, Tchoukine va être conduit chez eux dès 1907 et dès ce moment-là, il va vouloir récupérer certains tableaux, il va entrer en compétition avec eux, il va faire exploser le marché de l'art contemporain qui va devenir inaccessible pour les Stein. Donc on a là une compétition qui est assez aiguë.
Anaïs Kien.
On peut avoir une représentation assez égotiste du mécène finalement qui collectionne et qui entretient des artistes pour sa propre gloire. Mais on est frappé dans l'histoire de Tchoukine par ce mouvement d'importation d'art étranger, mais à des fins patriotiques finalement pour l'édification artistique
de la ville de Moscou.
Esthétique de la ville de Moscou.
Qui est un monde en soi. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant. C'est patriotique jusqu'à un certain point. Donc, ils veulent construire Moscou et ils vont aller aux quatre coins du monde, quand même, chercher des œuvres. Alors, Tchoukine se spécialise dans l'art français. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille déjà à l'échelle mondiale, Tchoukine. Il est allé chercher des tissus imprimés en Inde, en Chine, en Asie, en Extrême-Orient. Il va aussi regarder ce qui se passe au Moyen-Orient. Il s'intéresse à Matisse et Picasso pour les résonances qu'il trouve, ou Gauguin, pour les résonances qu'il trouve justement de cette altérité, de cet altermonde. Gauguin en Polynésie, Picasso du côté de l'Afrique noire et Matisse du côté du Moyen-Orient. Donc on a une ouverture du champ et une impureté des sources esthétiques qui est très forte. Un grand intérêt chez Tchoukine. De ce point de vue-là, il est tout à fait moderne.
Il faut vous remercier, Anne Baldassari, et puis remercier la Fondation Vuitton de permettre à tous ceux qui peuvent la fréquenter aujourd'hui, soit qu'ils soient étrangers venant en France ou encore montant des régions pendant les vacances ou en vivant à Paris, de pouvoir voir cette formidable collection Tchoukine, qui normalement n'est pas réunie puisqu'elle est en deux pôles, oui. À Moscou pour l'un et à Saint-Pétersbourg pour l'autre.
On doit à Staline cette division en 48, voilà. Qui était une manière pour lui d'éradiquer le nom de Tchoukine et l'art moderne.
C'est une histoire de guerre froide.
C'est une histoire de guerre froide.
On a commencé par là et on termine avec vous. Par là, merci en tout cas d'être
merci
venu vous présenter avec beaucoup d'enthousiasme cette grande exposition qui vient tout juste de commencer à Paris, qu'il faut absolument voir tellement elle est riche de grands tableaux qu'on ne peut pas voir habituellement quand on ne va pas en Russie.
Et
merci
même
encore.
Même en Russie.
Merci encore.
Merci.
Alors, on parlait d'un industriel, donc en l'occurrence Tchoukine, qui s'est entiché de l'art de son époque à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e, et un autre industriel, Maurice Potcher, en 1895, dans les Vosges, alors qu'il était lui aussi concepteur de textiles, va créer un théâtre qu'il appelle le Théâtre du Peuple, qui va donner à son village natal, à Bussan. C'est le thème du documentaire qu'on diffusera mercredi, puisqu'il n'y a pas d'émission demain, mardi, pour cause de messe de la Toussaint, qu'on diffusera mercredi dans la Fabrique de l'Histoire, un documentaire signé Amélie Meffre et Anne Fleury, dont on écoute un extrait.
Pour toi-même, n'as-tu pas quelques vœux, mon cher fils, à former ?
Donc vous faites de la figuration au théâtre, quoi, jusqu'à quand ?
Jusqu'à... Attends, j'ai une photo, je vais regarder sur quoi j'ai... 60... Roméo et Juliette, 77...
77.
Ah ben oui, ben c'est là. Alors, moi, je suis là. La robe faisait de l'effet. Et c'est vrai qu'on avait bien retapé, quand même.
Mais vous faisiez de la figuration tous les ans?
Ah ben, ma foi, oui, presque. Ouais. Ben oui, de toute façon, parce qu'on y était. Ils avaient une bonne troupe, comme ça. On était toutes là. Hein. Ouais, oui, c'est vrai.
Les ouvriers venaient faire de la figuration. donc tenaient des petits rôles. Mais s'ils en avaient la possibilité, si la tante Kamler paierait, ils pouvaient faire autre chose.
C'était une famille quand même assez progressiste.
Oui, ils étaient républicains. D'ailleurs, on l'appelait le patron rouge. Et en 1936, il est certain que les établissements potiers ont été moins touchés par les grèves, ou même pas du tout, contrairement à toutes les usines textiles de la région. Donc l'idée de Benjamin, c'est de demander à son fils de lancer un théâtre, je dirais dans l'esprit républicain, pour faire un petit peu ce que Jules Ferry avait fait pour la jeunesse. Jules Ferry était un ami des potiers aussi.
Et la première représentation a eu lieu, comme je vous l'ai dit, le 1er septembre 1995, et stupéfaction incroyable, le succès a été absolument total.
Frédéric Potcher.
Des gens venaient à pied, dans des fourragères, tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens venaient par n'importe quel moyen, il en est venu 3 000. Et puis les voisins alsaciens, qui étaient coupés par la frontière, naturellement, ils voulaient voir le théâtre, ils voulaient venir voir les gens de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire nous. Et ça a été un succès formidable.
Ce soir, il ne prend pas trop chaud. Il y a une pièce ce soir.
Oui. Vous allez y aller?
Oui, oui, bah oui, j'ai habillé quand même, je vais y aller. Ça, 8h30. Hein. En principe, les business, on est invités. Ah, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Bien souvent, enfin, nous, on ne payait pas nos places parce qu'on y allait. Mais les gens de Bussan, avant, ils payaient comme tout le monde, hein. C'est vrai. Ouais, oui. Ah, ben, nous faut.
Le théâtre de Busson, une aventure villageoise, c'est le documentaire que proposera la Fabrique de l'Histoire mercredi matin, un documentaire signé Amélie Meffre et Anne Fleury qui raconte donc l'aventure de ces industriels qui créèrent en plein cœur des Vosges un théâtre du peuple. Et puis jeudi, nous conclurons cette semaine raccourcie de la Fabrique de l'Histoire par une émission de débat autour des femmes mécènes, en particulier au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Bruno Gagnère-Fontani était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez l'écouter ou la réécouter, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et également nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse de la Fabrique, c'est fabriquefc@fabriquefc. C'est l'adresse de la Fabrique sur Twitter. Et puis rappelons que tous ceux qui auraient été alléchés par la présentation de l'exposition Tchoukine à la Fondation Vuitton, eh bien, il y a beaucoup de monde et il faudra donc réserver pour pouvoir s'y rendre. Merci à vous, Anne Baldassari. Et merci également à Clément Chillet d'avoir été avec nous en première partie de cette émission pour évoquer la figure de mécène, mais le vrai mécène, celui qui était auprès d'Auguste au tout début de notre ère.